Mais ce matin, on m'a demandé de porter la parole dans les Écritures pour un court message. Et j'aimerais vous inviter à prendre votre Bible, si vous avez une Bible. Sinon, un simple évangile de Jean, comme j'ai ce matin. Justement, un des évangiles qu'on est en train de distribuer. Et de tourner dans Jean chapitre 7. Et pour vous aider à apprécier la situation dans laquelle on se trouve dans Jean chapitre 7, j'aimerais vous rappeler une histoire dans l'Ancien Testament. Et peut-être on peut ouvrir un peu les lumières pour que tous puissent lire dans leur Bible. Merci beaucoup. J'aimerais vous rappeler une histoire qui va vous aider à comprendre un peu le sentiment et ce qui se passe dans ce chapitre présent. Vous rappelez l'histoire de Daniel, où Daniel, cet homme intègre, le prophète, qui avait été un homme fidèle, qui avait été persévérant, il est rendu à près de 90 ans. Et c'est un homme qui avait passé à travers des changements de leadership, qui avait vu des rois passer, et il était toujours là au poste. Cet homme était droit, il était sincère, et tous le reconnaissaient. Et un jour, des gens sans scrupules, des gens jaloux de ce qu'il avait comme attention du roi, des gens qui étaient envieux de son prestige, de sa notoriété qu'il avait acquis par l'intégrité et la fidélité qu'il avait portée, ont réussi finalement à le piéger et de le faire envoyer par le roi, à contre-cœur, parce que le roi s'était fait piéger lui aussi, dans la fosse aux lions. Et vous vous rappellerez ce moment où on voit le roi qui tente de voir comment il peut faire ça pour changer la situation. Il étire la chose jusqu'à la fin de la journée et finalement, il se voit à contre-cœur obligé d'exercer cette loi qu'il avait sanctionnée. Et finalement, on a l'impression que ça y est, Daniel va mourir, ces gens méchants vont gagner. Et là, il est lancé dans la fosse aux lions avec des lions qui n'avaient pas été nourris, qui attendaient juste ça de le dévorer, de le découper en petits morceaux. Et la tension, elle est forte. Et là, on se dit, qu'est-ce qui va arriver? Et là, tout à coup, le prochain verset, on entend le roi, qui le lendemain n'avait pas réussi à dormir, vient à l'aube pour voir, « Daniel, est-ce que tu es là? » Et là, le suspense. « Es-tu là? » Il dit, « Oui, ô roi, je suis là. Mon roi vit. Mon Dieu m'a délivré. » Dieu l'a délivré. Et on peut imaginer la tension qu'il y avait à ce moment-là. Et Jésus, dans le chapitre 7, se trouve exactement dans une situation similaire. Où est-ce qu'il est dans la fosse aux lions, au chapitre 7? Il est dans la fosse aux lions entre les griffes de gens qui veulent le faire mourir. Et c'est les gens qui sont les lions. C'est les religieux de l'époque qui sont les lions. C'est les gens qui étaient habillés dans des vêtements spéciaux, les gens qui semblaient être les plus religieux, les plus connaissants, qui sont ces gens qui sont prêts à le découper en petits morceaux. Ces gens qui attendaient le Messie et qui sont prêts à tuer le Messie. Parce qu'ils n'arrivent pas à voir de leurs yeux que celui-ci est vraiment celui qu'on attend. Mais il n'a pas tout à fait ce qu'on s'attendait de lui. Et on se retrouve dans la fosse aux lions. Qu'est-ce qui va arriver? Regardez au chapitre 7, et j'ai invité Chantal Legendre pour venir nous faire la lecture de la première moitié du chapitre. Alors, on va lire les versets de 1 à 27. Et après quoi, je vais demander... Oui, on va prendre le micro qui est là. Et après la lecture des Écritures, je vais demander au pasteur Benoît Lavergne s'il veut bien nous conduire d'un mot de prière pour bénir cette lecture, puisqu'on ne lit pas juste une histoire, on lit les Saintes Écritures.
Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Et ses frères lui dirent, « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. » Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez-vous à cette fête. Pour moi, je n'y monte point. » parce que mon temps n'est pas encore accompli. » Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient, « Où est-il ? Il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme de bien. D'autres disaient, non, il égare la multitude. Personne, toutefois, ne parlait librement de lui, par crainte des Juifs. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié ?» Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi ? Et nul de vous n'observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir ? » La foule répondit, « Tu as un démon. Qui est-ce qui cherche à te faire mourir ?» Jésus leur répondit, « J'ai fait une œuvre et vous en êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse car elle vient des patriarches, et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat ? Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. » Quelques habitants de Jérusalem disaient, « N'est-ce pas là celui qu'il cherche à faire mourir ? Et voici, il parle librement, et ils ne lui disent rien. Est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est le Christ ? Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est. Mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. »
Merci. Prions.
Tes paroles ne sont pas des paroles humaines, ce sont des paroles qui viennent droit au cœur. Parce que Seigneur, toi tu sais regarder, tu sais discerner et tu sais Seigneur comment rejoindre chacun d'entre nous. Peu importe où nous situons, quel est notre arrière-plan, nos expériences de vie. Parce que Seigneur, tu nous as créés. Tu nous as créés pour toi. Et tant et aussi longtemps qu'on n'est pas réconcilié avec toi, il y a un énorme vide dans nos cœurs et dans nos vies. Et toi seul, Seigneur, est capable de le combler. Seigneur, nous voulons te demander ta grâce ce matin pour que nous puissions vraiment goûter à ce que tu as à nous dire ce matin. Parce que tes paroles sont vérité et vie. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour le témoignage de Martine qu'on a entendu ce matin. Merci Seigneur, comment tu es capable de visiter chacun de ceux et celles qui ont tant besoin de toi, qui souffrent, qui sont délaissés, qui sont aux prises avec toutes sortes de fardeaux dans le cœur, ne sachant où aller. Et quand on te rencontre, toi Seigneur, c'est un rendez-vous divin, un à un, où tu mets ta main sur nous, touche nos vies, nos cœurs, et tu nous montres à quel point tu nous aimes. Et merci, Seigneur notre Dieu, d'être encore en train de chercher des hommes et des femmes. Que la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Amen. Amen.
Merci beaucoup, Chantal, pour cette lecture. On pourrait appeler ce chapitre le chapitre de la confusion aussi. Le chapitre où les gens disaient ceci, d'autres disaient cela, d'autres disaient ceci, puis d'autres disaient cela, et encore d'autres disaient ceci, et d'autres disaient cela sur Jésus, c'est la confusion. Les gens n'acceptent pas nécessairement ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent, le questionnent, ils ont des fausses informations de leurs leaders religieux, ils ne connaissent pas bien les Écritures, ils ont des attentes qui n'étaient pas dans les Écritures non plus face au Messie, ils voient Jésus, ils voient des choses qu'ils ne s'attendaient pas, et les réactions sont mitigées, très mitigées. Et c'est la confusion. À trois reprises, on voit ces dialogues. Certains disaient ceci, certains disaient cela, d'autres disaient ceci, d'autres disaient cela, et ça se répète. Maintenant, pour apprécier ce chapitre, il faut apprécier la fête dans laquelle on se trouve. Juste au début du chapitre, au verset 1, on nous dit qu'ils étaient dans la fête des... Ou la fête des... des tentes, ou certaines traductions vont mettre la fête des cabanes, ou en fait, en hébreu, on l'appelle la fête des Sukkot, la fête des tentes. C'était une fête importante, une des trois fêtes très importantes pour le peuple juif, où la majorité venait à Jérusalem et vivait dans des tentes. Et encore aujourd'hui, cela est pratiqué. Bon, ils le font sur leur balcon pour plusieurs ou sur le top de la maison, mais ils vont vivre pendant une semaine sous les tentes. Pourquoi? Pour se rappeler, à l'époque où ils sont partis de l'Égypte, ces 40 années dans le désert où ils vivaient dans des tentes et Dieu pourvoyait à leurs besoins. Alors, on est dans cette semaine où ce que Jésus sait que tous les gens vont être là. La dernière fois qu'il y a eu une grande célébration à Jérusalem, Jésus, au chapitre 5, avait guéri un paralytique un jour de sabbat. C'était la controverse. Et là, ils se disent, ben ses frères qui sont eux-mêmes incrédules, ils disent, ben vas-y, c'est extraordinaire que ça. Ben tu sais, va où est-ce que la foule, man? Let's go, là. C'est là que tu vas te faire connaître si tu cherches le prestige, faire reconnaître qui tu es. Et ils étaient incrédules. Et Jésus va monter en secret. Et dans cette fête, va faire des déclarations foudroyantes. Et que j'espère ce matin, vous serez en mesure d'apprécier tout ce qu'il est en train de déclarer avec une grande puissance. Mais il faut apprécier ce contexte. Maintenant, quand on lit Jean, c'est important de savoir c'est quoi le but de Jean. Chaque livre de la Bible a un but particulier, une audience. Et j'aimerais vous lire dans Jean chapitre 20 et les versets 30, le but de l'évangile de Jean, et que j'ai déjà lu, mais que je veux répéter parce que c'est tellement important, on est oublieux. Et on lit dans le chapitre 20 de l'Évangile selon Jean, ces paroles, au verset 30. « Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles, beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. » Alors là, on est en moyen de dire, mais pourquoi ne sont pas tous inclus là-dedans? On devrait en avoir plus encore, on n'a jamais assez des histoires extraordinaires de ce que Jésus a fait. Mais voici la raison. Mais ces choses ont été écrites. Donc, on a distillé dans toutes les histoires qu'il pouvait raconter. Il a choisi quelques-unes afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, donc qu'il est le Messie, qu'il est le Fils de Dieu, et donc en étant Fils de Dieu, Dieu lui-même, et qu'en croyant en lui, vous ayez la vie en son nom. Trois choses. Il veut premièrement qu'on vienne qu'à croire, peu importe qui est son audience, je veux que vous veniez à croire. C'est ce que dit Jean. Et la deuxième chose, je ne veux pas que vous croyez n'importe quoi. Il y a des gens qui croient en toutes sortes d'affaires. L'objet de notre foi doit être Jésus. Et qu'il est le vrai Messie qu'on attend. Qu'il est le Fils de Dieu. Et donc, qu'il est Dieu incarné en homme. Né d'une vierge. Tout cela. Alors, croire qui Jésus est, toute son identité, c'est important. Si je crois que Jésus est simplement un prophète, ce n'est pas ce que Jean dit. Et ma foi serait vaine. Elle sera sans puissance, sans pouvoir. Il est le Christ. Et la dernière chose, c'est que si je crois dans l'identité de qui est Jésus-Christ, la chose qui arrive, c'est quoi? Comment? La vie éternelle, exactement. Et la vie éternelle est répétée à presque tous les chapitres. Soit la vie éternelle, pour dire que c'est le résultat de celui qui croit en qui Jésus est. Et ce n'est pas une vie éternelle éventuelle, c'est une vie éternelle dès maintenant que j'ai l'assurance d'être pardonné, je sais que j'ai la vie éternelle maintenant. Peu importe ce qui se passera dans la vie éternelle, que le jour où je mourrai ou lorsque le Seigneur viendra, j'ai la vie éternelle maintenant en Jésus-Christ. C'est ce que la foi en Jésus donne. Et Jean veut montrer ça à tous les chapitres. Alors, il ne fait pas comme les autres évangiles qui s'y prennent différemment, qui parlent à une différente foule, des Juifs, des Grecs, des Romains, et qui s'adressent d'une différente manière. Jean s'adresse à tous et veut qu'on vienne qu'à croire. Et ce chapitre ne fait pas exception. Tout ce qui s'y trouve veut nous pointer vers la foi en Jésus-Christ et qui il est. Et son identité est bien importante. Maintenant, si vous avez déjà lu le texte et déjà dans les paroles que nous avons lues, vous remarquez qu'il y a de la confusion. Et j'aimerais vous lancer la question de le relire et de trouver dans le texte les obstacles que les gens faisaient face pour croire. Je vais vous en nommer quelques-uns et vous pourrez le faire à la maison en relisant cet après-midi ou ce soir. Mais il y avait plusieurs choses dans le livre, dans l'histoire qu'on vient de lire, qui nous pointent vers les obstacles que les gens vivaient en écoutant Jésus. Première chose, son enseignement, dans les versets 14 et 15. Son enseignement était renversant. Il n'enseignait pas comme personne d'autre enseignait. Il n'enseignait pas comme ceux qui avaient ces grandes compétences à l'école rabbinique, qui avaient étudié, qui connaissaient la loi. Il enseignait avec une autorité que ceux-ci n'avaient même pas. Et les gens l'écoutaient et disaient, ce gars-là, il enseigne, mais c'est pas pareil à tout ce qu'on entend. Il y a quelque chose que quand lui parle, waouh, c'est clair. Il y a une autorité, il y a une connaissance qu'on ne retrouvait pas chez personne autour. Et ça, ça apportait de grandes questions chez les gens qui écoutaient Jésus parler. Son enseignement troublait les gens. Aussi, ces questions qu'il posait et qu'il savait poser au bon moment, au verset 19-20 par exemple, et sa connaissance qu'il avait des Écritures sans avoir passé par les écoles rabbiniques. Et ça même, ce n'était pas juste un problème pour la foule, c'était un gros problème pour les autorités et les gens éduqués. C'est qui ce ticoune-là, autodidacte, qui n'est jamais allé à l'école, qui vient d'un petit village dans le fin fond d'un rang, d'un parc à vaches, dans le nord du pays, où il n'y a pas grand-chose qui vient, puis ce monde-là dans le nord du pays, là, c'est une bande d'attardés dans les champs. C'était ça qui avait comme mépris les gens de Jérusalem sur les gens de la Galilée. Une bande de colons qui vivent dans le nord. Là. Ils méprisaient. Pas d'études. Même pas un DEP, une technique. Non, rien pas tout. Encore moins l'université. Puis c'est qui ce gars-là pour venir nous enseigner de même avec autorité? Et là, les gens qui étaient éduqués démontraient une grande arrogance à l'égard de celui-ci qui n'avait pas les crédits prestigieux académiques que lui avait. Comme si la connaissance à travers les siècles était passée simplement par des gens qui avaient étudié. Hein? Combien de choses ont été inventées de gens qui ont marqué leur époque et qui n'avaient aucune éducation. Comme si l'étude, la connaissance était garante de la vérité. Et que le commun des mortels ne pouvait pas distiller la vérité. On n'est pas assez intelligent. C'est pour une sphère plus haute de gens. Et d'où venaient aussi les gens, les gnostiques, les gens qui étaient attachés et qui avaient la connaissance. Et quelle arrogance! Évidemment, en 2009, on ne voit jamais de tels propos. Alors, je sais que je n'ai pas besoin de faire d'application pratique ici à ce sujet-là. Mais à une certaine époque, des gens ont vécu cette difficulté d'orgueil académique. Et c'est arrivé à bien des époques, en fait. Et bien des gens ont été tués, rejetés, abandonnés par les gens qui étaient en autorité parce qu'ils n'avaient pas les crédits, la réputation, la dite connaissance officielle. Et ça, c'était un gros problème pour les gens qui écoutaient. Un autre énorme problème, et qu'on retrouve aujourd'hui, celui-ci. Versets 25 à 27, on voit que les gens manquaient de connaissances au sujet des Écritures. Ils avaient la loi et ils pouvaient la lire et l'entendre lue régulièrement, tous les semaines au moins, dans la synagogue. Ils pouvaient prendre des cours, les hommes pouvaient aller se faire éduquer à l'école rabbinique. Ils apprenaient une portion des Écritures tout jeune. Et pourtant, chez ces mêmes Juifs qui avaient reçu il y a 1400 ans avant Jésus-Christ la loi, il y avait tellement d'ignorance. Et vous savez pourquoi? Avec les années, les rabbins avaient fait des sermons, des fois des bons sermons, avaient fait des descriptions, des explications de certains passages, des commentaires. Et là, tranquillement, au cours des siècles, certains s'étaient démarqués et on les a mis en livre. Et là, au bout de plusieurs siècles, plusieurs s'étaient démarqués. On les a mis dans une combinaison de livres. Et là est venu des commentaires explicatifs et qui ont commencé à prendre la place. Le Talmud, la Mishnah, et qui ont commencé à prendre la place de la loi originale. Et là, on avait tellement d'explications et d'explications et d'explications qu'il y avait des choses contradictoires aux Écritures dans ces explications, 1400 ans plus tard. Et l'être humain recommence, vous savez. Il refait toujours les mêmes choses. Et rendu à cette époque, donc les gens comprenaient mal les Écritures, beaucoup n'étudiaient pas les Écritures, pourtant ils étaient le peuple juif à qui Dieu avait donné dans leur langue les Écritures. Et pourtant, ils ne la connaissaient pas, ne l'étudiaient pas, et donc n'étaient pas prêts pour identifier le Christ qu'ils attendaient. Et ils s'étaient fiés beaucoup à ce que les rabbins leur disaient sur le Christ, qu'il les libérerait, et c'était plus un guerrier qu'ils voulaient, qui allait les libérer des Romains, et pensant que la liberté qu'il apportait, la guérison qu'il apportait, ça serait de trouver la liberté comme nation. alors que Jésus voulait donner une liberté beaucoup plus profonde que cette superficielle autonomie politique, celle du cœur. Celle du cœur. Et les gens connaissaient très peu les Écritures. En plus, il fait cette déclaration dans les versets 31 à 36, « On ne peut venir d'où il vient. » Alors là, il dit, « Seigneur, donne des propos aussi que les gens, en énigme en quelque sorte, parfois, qui ne comprennent pas et qui apportent des réactions mitigées. Beaucoup se questionnent et beaucoup d'opinions. Alors, les gens s'écoutent l'un l'autre. Il y a beaucoup d'opinions autour. Alors, il y en a qui disent ça. Hey, t'as-tu, il y en a d'autres qui disent ça sur lui. Puis, il y en a d'autres qui disent ça sur lui. On a ça aujourd'hui, hein? Des documentaires sur Jésus, des choses sur l'Internet. Puis, certains pensent que c'est un bon prophète. Certaines religions disent ceci. Mohamed dit que c'était un prophète, mais qui n'est pas vraiment mort. L'autre religion dit que c'était juste un homme incroyable. D'autres disent qu'il n'est pas vraiment Dieu. C'est un Dieu, comme les témoins de Jéhovah. D'autres disent qu'il y a des frères et sœurs qui ont été engendrés, une relation entre Marie puis Dieu, les Mormons, puis là, il vient toutes sortes d'affaires bizarres de ça. Et il y a toutes sortes d'affaires. Puis là, t'écoutes d'un bord puis de l'autre, puis qui est Jésus? Et aujourd'hui, en 2009, on entend ces mêmes propos. Ah, mais il y en a qui pensent ceci, il y en a qui pensent ça, puis il y en a qui pensent ça. Et là, si tu ne fais pas tes devoirs, qu'est-ce qui arrive? T'écoutes tout le monde. Puis est-ce que d'écouter tout le monde, c'est intelligent? Est-ce que tout le monde donne des explications intelligentes sur la vérité? Bien des opinions, bien des réflexions, mais souvent beaucoup de confusion. Et la preuve se trouve normalement dans la vie qu'une personne mène. On dit quelque chose, mais là, la vie est tout en envers. Tu dis, ouais, OK. La vie est tout en envers. Il dit qu'il sait ce qui. Mais là, c'est pas cohérent, là. Et tu regardes la cohérence dans la vie des gens, ce qu'ils disent. Et là, tu vois, OK, ouais, il n'y a peut-être pas grande crédibilité. Là, il y a ça, puis. Et aujourd'hui, on est porté. Et je me rappelle avoir été à l'université et de faire des tables de livres. Et les gens disaient, « Ah, ben moi, on m'a enseigné que. Ah, j'ai entendu dire que. Ça, moi, on me dit que c'est même pas vrai, cette affaire-là. Puis Marie, c'était sa sœur. Puis... » Et c'est tout des entendus dire. Et là, je leur dis, « Ben, est-ce que tu as lu les Écritures pour vérifier par toi-même au lieu d'écouter tout le monde? » Puis tu es à l'université, tu es à l'endroit du savoir. Intellectuellement, c'est inacceptable de dire, « Oh, on m'a dit quelque chose, puis je l'accepte de même. » Je dis, let's go, là, t'es au cégep, t'es à l'université, il y a un minimum là, d'intégrité intellectuelle qu'il faut avoir. Ici, ils t'apprennent à réfléchir, puis pas juste tout accepter comme du cash. Est-ce qu'on le fait vraiment? C'est une autre question parfois. Jamais homme n'avait parlé comme lui. Et regardez bien au verset 46. Verset 46, c'est intéressant. Les pharisiens, les autorités avaient envoyé des huissiers pour aller le chercher, le saisir littéralement. Et voici ce qu'ils disent, ces hommes, lorsqu'ils reviennent à leurs autorités. Ils disent au verset 46, les huissiers répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » On n'a jamais entendu quelqu'un parler de même. Et là, il dit après, et les pharisiens leur répliquèrent, « Est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? » Bande de caves. On vous envoie le chercher, tu reviens, puis tu as de l'air d'un converti de la manière que tu parles. Niaiseux. C'était ça leur attitude, là. Un mépris. Si vous lisez les prochains versets, regardez bien ce qu'il dit. Y a-t-il quelqu'un des chefs et des pharisiens qui ait cru en lui? Hein? Ça donnerait de la crédibilité s'il y en aurait un intelligent dans la gang, là. Un qui a des diplômes puis qui a du prestige, qui croit en lui. Et chose intéressante, dans les prochains chapitres, on voit que des hommes en autorité ont cru en lui, dans le chapitre 12, verset 46, justement. Mais c'était pour eux un critère. Mais quand le critère était annoncé, ils l'ont crucifié quand même. Quand ils ont vu des gens en autorité croire, ils ont quand même renié le Christ. Et là, on dit, « Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. » Wow! Super leader, hein? On va bâtir notre estime avec ces leaders-là chez les Juifs. Ah, ils n'osaient pas le dire, mais hein, le monde qu'on enseigne, c'est une bande de caves. C'était ça leur attitude. Imaginez qu'est-ce qu'on apprenait de ces gens-là. Ça devait être beau. Hein? Le mépris total. Alors, tous ces gens-là tournent autour de Jésus. Et en plus, il y en avait beaucoup qui faisaient des fausses affirmations. On voit au verset suivant, les pharisiens qui répondent, disent, « Y a-t-il déjà eu un prophète en Galilée? » Ils assument que non, mais non, il y a déjà eu des prophètes en Galilée. Jonas, on a un livre. Il vient de la Galilée. Et les gens faisaient des déclarations fausses, en plus, sur le de toutes ces confusions qu'il y avait là. Alors, on peut comprendre pourquoi il y avait tellement de confusion. Et on peut comprendre, vous savez, en tant que Québécois, face à notre culture. Vous savez, 1400 ans avant Jésus-Christ, la loi était venue, et 1400 ans rendue à Jésus-Christ, la loi avait été tellement ajoutée qu'on ne lisait même plus les Écritures souvent. On se fiait davantage aux commentaires rabbiniques, aux ci puis aux ça qui ont été écrits par des hommes bien savants. Jésus est venu, il a dit, tout ça, ben, il va falloir le jeter parce qu'il faut retourner à la loi. Vous n'êtes même plus en train de pratiquer la loi tellement que vous êtes rendu loin avec toutes les choses qui vous ont égaré. Alors, on a les évangiles qui arrivent. Et Jésus a été rejeté pour ses dires. Il a été tué, mais il est ressuscité des morts pour nos péchés, pour pouvoir amener ses brebis perdues au Seigneur, à son Père céleste. La loi a été, en quelque sorte, par le christianisme, remis en premier plan et les livres du Nouveau Testament ont été écrits à l'époque, juste après Jésus, par les apôtres. 1400 ans plus tard, on arrive à l'époque de la Réforme. Et qu'est-ce qui est arrivé en 1400 ans depuis Jésus-Christ? La même affaire est arrivée qu'avec le peuple juif. On avait fait des commentaires. Une église qui, au début, était dans la vérité, avait tranquillement ajouté des choses qui n'étaient pas dans les Écritures. On avait ajouté que tout à coup, les anciens, les prêtres, les évêques devaient plus, par exemple, être mariés. C'est venu 800 ans plus tard. Alors là, tout à coup, on ajoute une chose. On ajoute des choses là où il y avait des questions qu'on n'avait pas de réponse aux Écritures. On a ajouté des choses. On a inventé les limbes pour les enfants. On a inventé le purgatoire pour purger nos péchés pour les adultes, en espérant qu'avec des années de purgatoire, on va purger nos péchés, puis maintenant, après avoir souffert un certain temps, aller au ciel. Et là, on a ajouté des choses, Mais il y avait une vérité au début. Elle était là. Et tranquillement, on a tellement ajouté de choses qu'on est rendu au peuple québécois qui, dans le 19e siècle, jusqu'au milieu du siècle-ci, était pris dans une situation où les gens étaient gardés dans l'ignorance. On leur disait, lisez pas les Écritures, parce que si tu lis les Écritures, tu vas devenir fou. Il y en a qui ont entendu ça quand ils étaient jeunes, hein? On nous disait ça. C'est la Bible sur laquelle est fondée la religion chrétienne, la dite religion chrétienne, mais il ne faut pas lire le livre saint, tu vas virer fou. OK. Ah. Puis là, on ne va pas vérifier en plus puis dire qu'il y a des contradictions. Puis là, quand on voit Jésus, puis on dit qu'il y a des frères et des sœurs, c'est ses cousins puis ses cousines. Ce n'est pas des frères et des sœurs, là. Et là, on ajoute des choses, mais qui ne sont pas là. Mais pourtant, c'était tout écrit. Mais on a ajouté des traditions, on a ajouté des commentaires, on a ajouté des doctrines, des dogmes, on a ajouté des choses, et tranquillement, l'être humain a fait la même chose, a fait de la foi une religion. On fait d'une relation précieuse avec le Créateur, un bande de rites, d'une rigueur religieuse repoussante. Et qu'est-ce que le peuple québécois a fait? Hein? Il a tout balancé. Il a garoché le bain, puis avec le bébé dedans en plus, tout vidé au complet. Et je parlais, hier j'étais je célébrais un mariage, mon Carmel, et je parlais avec un homme qui est venu m'approcher dans la soirée, et on a parlé pendant un bon bout de temps, très intéressante discussion. Monsieur de 57 ans, et qui me parlait justement un petit peu de sa perception des choses. Puis il dit, nous autres, dans le fond, on l'a tout garoché, là, quand j'ai commencé à aller à l'école, puis là, je me suis rendu compte que si, que ça, puis là, ça n'avait pas d'allure. Moi, j'ai tout balancé, puis là, quand il est arrivé ici avec ma femme, puis tout ça, j'ai été déçu. Lui, j'ai tout balancé, moi, je ne veux plus rien savoir. Mais je dis, vous reflétez un peu la majorité du peuple québécois. On se dit encore catholique de souche, mais je dis, dans la réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Et très loin de ce que dit être le catholicisme, hein? Mais je dis, le problème, je dis, mon cher monsieur, c'est que vous avez tout garoché au complet. Vous avez vidé le bain, mais pas juste avec l'eau, mais le bébé aussi. Et vous avez aussi, donc, dans votre vie, amené de la confusion parce que vous avez enlevé aussi toutes les bonnes choses qui étaient vraies et qui étaient dans les Écritures. On va d'un côté de la pendule et on va à l'autre. Hein? Et on ne peut plus comprendre ce qu'eux autres vivaient ici, comme peuple québécois. On a des choses similaires dans notre héritage québécois. Et il y a eu la Réforme, vous savez, il y a 500 ans. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu un paquet de gens qui sont sortis de l'Église. Mais après des années, beaucoup de protestants aujourd'hui sont rendus à recommencer des traditions, puis des ci, puis des ça, et s'éloignent encore. L'être humain refait la même chose continuellement. Et par la grâce de Dieu, notre Église ici n'est pas parfaite et loin de là. Elle est remplie de pécheurs, parce que c'est le corps de Christ et c'est les croyants. Mais par la grâce de Dieu, on ne veut pas tomber dans la religiosité. On ne veut pas tomber ici dans la tradition. On ne veut pas tomber dans « il faut faire ça comme ça parce qu'on a toujours fait ça de même ». Ça, c'est pas correct. Mais pourquoi? Ben, parce que c'est pas correct. Non. Qu'est-ce que la Bible dit? On va la lire ensemble et c'est ça qui prime. C'est ça qui prime. Le message de Jésus tel qu'il est, et si quelque chose se fait ici et qui n'est pas selon la parole de Dieu, vous devez de venir voir les leaders. Ils disent, écoutez, on fait ça, puis ça dit ceci. Parce qu'on ne veut pas tomber dans la religiosité, dans la rigueur de la religion qui repousse la vérité finalement au bout du compte tranquillement parce qu'on forge une religion. On veut être dans une relation intime et personnelle avec le Sauveur, vivre le pardon et la paix et la liberté de suivre Jésus-Christ et non les contraintes de suivre Jésus-Christ et non les fais pas ci, fais pas ça. Jésus dit pas ça. Jésus dit suis-moi. Suis-moi. C'est positif. C'est pas enlève ci, enlève ça. C'est fais du bien à ton voisin. C'est pas enlève ci, enlève ça. C'est non, donne ça. Jésus a un message tellement différent et qui, en 2009, est aussi important. Les preuves que Jésus est ce qu'il dit être, bien, je vous les nomme. On les a vues tranquillement à travers les passages que je vous ai soulignés. Mais on voit sa sagesse. Une sagesse qui se démarque de toutes les autres. Et en partant son enseignement, le démarquait sur son autorité, sur son identité. Ses paroles, dans les versets 28-29, ses miracles. Déjà jusqu'à ce point-ci, il avait fait plusieurs miracles, et je vous nomme juste ceux-là qu'on retrouve jusqu'à présent dans le livre de Jean. Il a passé de l'eau au vin dans un mariage, une cruche d'eau qui est devenue du vin. Wow! Guéri un fils d'un homme qui était venu le voir, qui demande de guérir. Et on dit que, alors qu'il a prononcé les paroles « ton fils est guéri » à l'endroit plus loin où était son fils, au même moment, de l'heure même, il était guéri. Ensuite, il a guéri un paralytique. Mais là, l'affaire, c'est qu'il n'a pas guéri au bon moment de la semaine. Ah, c'est choquant, ça. Il ne fallait pas le faire le dimanche. Non, le samedi, excusez-moi. Le jour du sabbat. Vous voyez comment c'est ridicule? Ça fait pas du bien à quelqu'un qui veut être guéri, qui depuis 38 ans, je vais en parler sur ce texte prochainement, mais depuis 38 ans, attend là, d'être guéri. Ensuite, il multiplie les pains et le poisson pour nourrir une foule de milliers de gens, qui avait au moins 5000 hommes. Et en plus, il marche sur les eaux après. Il en avait fait juste là des signes incroyables qui authentifiaient qui il était. Et à Jérusalem, tout récemment, ce paralytique qui avait marqué la foule, et on va lui rappeler dans ce texte-ci. Et là, Jésus va dire, écoutez, là, la loi a dit là, qu'il faut circoncire. Mais vous faites la circoncision le huitième jour, même quand ça tombe, le sabbat. Ah, c'est drôle, hein? Vous avez le droit de faire ça, par exemple. Mais là, faire du bien, puis faire un miracle, le jour du sabbat, ça, c'est pas correct. Et c'est exactement ce qu'il dit dans ces versets qu'on a lus tantôt. Il est confronté, vous dites suivre la loi, mais vous ne la pratiquez pas. Vous êtes incohérents. Et Jésus les condamne là-dessus. Il leur dit, vous dites croire quelque chose, mais dans la vie quotidienne, il n'y a rien qui se passe. Vous savez ce que les gens font de ça? Ils disent, j'en veux pas. Ça m'écœure. Plein de belles choses, mais finalement, là, ça apporte juste la révolte, la frustration, parce que vous ne le faites même pas, mais vous l'imposez aux autres, par exemple. Il y avait toute cette ambiance qui se vivait dans le peuple lorsque Jésus est en train de confronter ses paroles. Et Jésus, il va avec autorité, puis il ne va pas de main morte. Il dit les choses telles qu'elles sont. Avec vérité, non méchamment, mais il ne mâche pas ses mots. Il prédit même sa résurrection dans les versets 33-34. Il l'annonce. Il le dit exactement. Et plusieurs fois à part ça. Et ça va arriver, et même après ça. On le rejette. Il prétend aussi de donner la vie. Et il fait des. Et aussi, on dit on parle de lui dans les prophètes. Maintenant, pour apprécier les paroles suivantes, on doit comprendre un peu la cérémonie qui se passait. Je vous lis les paroles qu'on trouve au verset 37 à 39, au cœur du chapitre. Le dernier jour de la grande fête des tabernacles, Jésus se tient debout et s'écrie : si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croient en lui, car l'Esprit n'était pas encore venu, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. L'Esprit va venir seulement après la mort de Jésus. Jésus devait partir pour que l'Esprit vienne dans la vie du croyant et l'aider à vivre convenablement selon les Écritures. Mais pour apprécier ces paroles, il faut apprécier ce qui se passait à la fête des tabernacles. Imaginez ceci. On prenait une cruche, une belle cruche dorée, et des prêtres partaient du temple et allaient au sud, jusqu'au bout de la pointe d'Ophel, qu'on appelle, là où il y avait la piscine de Siloé. Ils descendaient vers le sud, ils allaient remplir la cruche d'eau, et là, ils repassaient par l'entrée qu'on appelait la porte des eaux. Et au moment qu'ils passaient, les gens récitaient Ésaïe chapitre 12. Et je vous lis les versets. Ésaïe chapitre 12, verset 3. Imaginez, il y a l'eau, il est en train d'amener l'eau. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et juste avant, on parle dans le chapitre même d'Ésaïe que Dieu est le salut d'Israël. Il dit, voici, Dieu est ma force, ma délivrance. Je serai plein de confiance, je ne craindrai point, car l'Éternel est ma force. C'est lui qui m'a sauvé. Et là, on prononçait ces paroles, que cette eau de joie qui est transportée, cette eau du salut. Et là, on la portait au temple. Et au temple, ce qu'on faisait, c'est qu'on versait sur l'autel comme une offrande et comme une prière, cette eau. Pour deux raisons. Pour, en quelque sorte, remercier Dieu pour la pluie qu'il donnait, parce que c'était jumelé, la fête des tabernacles, aussi avec la fête au début du mois d'octobre. Alors, ce que nous, on appelle l'action de grâce, ou les Américains, le Thanksgiving en novembre, la saison où on fait les récoltes, ils remerciaient Dieu pour les pluies qui avaient apporté la récolte. Alors, l'eau qui arrivait, et ils priaient pour cette pluie aussi. Et ils se rappelaient aussi, à la fête des tabernacles, en même temps, l'eau que Dieu avait pourvue dans le désert. Parce que vous vous rappelez, dans le désert, dans l'Exode, on nous raconte deux fois que Dieu a donné de l'eau à partir d'un rocher au peuple dans le désert, pour leur montrer que c'est lui qui le faisait vivre et personne d'autre. Et c'est lui qui soutenait son peuple. Et eux, par ce geste, rappelaient l'eau qui avait coulé dans le désert et que Dieu avait pourvu à leurs besoins, les avait justement donné tout ce qu'ils avaient besoin pour boire. Et ils étaient assoiffés et Dieu les avait rassasiés. Alors, il y a toute cette cérémonie qui se passe lors du dernier jour. C'est un jour de sabbat, OK? Dernier jour de la fête, il y a toute cette cérémonie-là. Alors, imaginez la situation, vous avez cette image en tête. Et là, Jésus fait cette déclaration. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire? En faisant une déclaration comme ça, il est en train de dire que c'est lui qui est l'eau. Il s'identifie comme Dieu, comme celui qui a pourvu leurs besoins, celui qui a porté l'eau. Et il dit, ceux qui vont boire de mon eau, ils vont toujours être satisfaits d'une soif, cette soif humaine qu'on a de chercher, de trouver la vérité, de trouver la satisfaction, le bonheur, la joie. Il dit, cette soif que l'être humain a, cet endroit dans le cœur insatisfait et qui nous fait nous porter vers l'argent, vers le travail, vers les sports extrêmes, vers toutes sortes de choses juste pour nous changer d'idée, non qu'aucune de ces choses soit mal. Mais sans satisfaction, Jésus pouvait donner ce verre d'eau qui ne donnerait plus jamais soif, mais qui donnerait une vie éternelle en Jésus-Christ. C'est une déclaration unilatérale pour le Juif qui était là. C'est moi qui donne cette eau que vous avez vue dans le désert. C'est moi qui donne cette eau. Il est l'eau de vie. Wow! Imaginez les Juifs qui écoutaient ça. C'était radical comme déclaration. Et tout au long du chapitre 7 jusqu'à 10, les images que Jésus utilise sont des images qui sont dans la fête des tabernacles et qui est en train de dire, c'est moi le Christ. 6 fois, on pose la question, est-ce qu'il est le Christ? C'est-tu lui le Christ? Dans le chapitre. Et la réponse est, oui, Jésus est le Christ. Il est le Messie, celui qu'on attend, et le seul qui pourra changer la situation de mon cœur. Et remarquez dans les versets 30, la dernière chose que je vais vous parler, une décision qui s'impose, versets 30 et 31. Et on remarque ici une réaction négative et une réaction positive au message de Jésus. Ils cherchèrent donc à se saisir de lui, et personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Quand ce n'est pas le temps, ce n'est pas le temps. Autant dans nos vies que dans la vie de Jésus, Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Et quand ce n'est pas le temps, ce n'est pas le temps. Ce n'était pas son temps de mourir. Il y avait encore 6 mois jusqu'à la dernière Pâque et le Seigneur avait une œuvre à faire. Et ils n'ont pas pu le saisir. Mais ils voulaient le saisir et le tuer. C'est la 4e fois qu'on dit dans ce chapitre-ci qu'ils le cherchaient et qu'ils voulaient le saisir pour le tuer. Et quand il leur dit, « Vous voulez me tuer? T'es un démon, t'es malade, toi là! » Et Jésus leur disait simplement ce qu'ils se disaient entre eux autres. Et ce qu'on a lu juste avant. Mais personne ne voulait l'avouer. L'autre réaction, celle que j'en désire, Plusieurs parmi la foule crurent en lui. Ils disaient, le Christ, quand il viendra, fera-t-il de plus grands miracles que ce que celui-ci fait? C'est possible de faire plus de miracles que ça? Et ils crurent. Et à chaque chapitre, on trouve des gens qui entendent et qui croient. Et certains vont l'avoir cru dans le chapitre précédent pour voir les miracles, pour la nourriture qu'il avait apportée. Et à un moment donné, il va faire des déclarations foudroyantes pour faire le ménage parmi des gens qui disaient croire, mais que finalement, lorsqu'il a confronté les choses dures de la vie, ils se sont égarés. Ils ont décidé, oh, il y a un petit ménage qui s'est fait dans ceux-là qui disaient croire. Parce qu'on a bien beau dire croire. Celui qui croit persévère. Il persévère par la foi, malgré les difficultés. Et le temps démontre toujours notre allégeance. Le temps démontre toujours notre cœur. Notre vie dévoile toujours les fruits, s'ils sont de Dieu ou s'ils ne sont pas de Dieu. Mais un dernier homme arrive à la rescousse. Une personne se démarque au verset 50. Et c'est les derniers versets que je vais lire. Nicodème, vous vous rappelez de Nicodème? On le retrouve au chapitre 3. Cet homme qui était venu de nuit, un homme qui était un homme de loi, un dirigeant, et là on le retrouve ici, qui devant les chefs et les pharisiens qui discutent ensemble, parce qu'il était un pharisien, Nicodème qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit, « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? » Il est en train de dire, est-ce que vous faites ici de condamner sans l'avoir interrogé sur des oui-dire? C'est contre la loi. Et là, évidemment, ses collègues n'étaient pas trop contents. Quelqu'un se lève à la défense de Jésus et personne dans le coin osait le faire parce que là, depuis un certain temps, au chapitre 9, on l'a vu il y a quelques semaines, les gens ne pouvaient pas aller à la synagogue s'ils s'identifiaient avec Jésus. Et déjà, on dit au début du chapitre que les gens avaient peur d'en parler à public de leur opinion de Jésus. On ne voulait pas se mouiller. Et là, il dit... Ils lui répondirent, « Es-tu aussi un Galiléen? C'est pour ça que tu viens à sa rescousse. Examine, puis tu verras que de Galilée, il ne sort pas être prophète. » Et c'était faux. Mais encore, le mépris qui vient, cette arrogance qui était le blocage majeur pour ceux-ci, pour qu'ils puissent venir à la foi en Jésus-Christ. Ce que Jésus leur offrait, ils ne pouvaient le recevoir par orgueil. J'aimerais vous poser la question. Dans tous ces obstacles que j'ai mentionnés, l'orgueil, cette arrogance, cette question académique, cette question de lire les Écritures, de les connaître, tous ces obstacles qui empêchaient les gens de connaître Jésus, la religiosité, est-ce que vous avez de ces choses dans votre vie, de ce genre, qui vous bloquent pour venir à Jésus? J'ai admiré une personne dernièrement qui m'a demandé une visite et que j'ai été voir et qui disait, « Moi, j'ai quelque chose qui est un problème, j'haïs quelqu'un. » Et la personne a simplement, j'ai dit, « C'est correct, on peut régler ça. » La personne a cru en Jésus, puis après ça, elle a cru que le Seigneur pouvait l'aider à pardonner. Et c'est ce qu'elle a fait. Avez-vous un obstacle comme ça dans votre vie qui vous empêche de donner votre vie à Jésus-Christ, comme ces gens? Ou peut-être êtes-vous croyant et y a-t-il quelque chose dans votre vie comme celui-ci, qui vous empêche de grandir dans votre vie de croyant et de porter les fruits du croyant. Je lisais ces paroles d'un CD qui est sorti dernièrement. Plusieurs connaissent le chanteur Bono. Et dans une chanson qu'il a écrite il y a juste quelques temps, qui vient de sortir il y a à peu près 4-5 mois, il dit ceci, et je ne suis pas en train de dire qu'il est un croyant ou pas, c'est des paroles qui reflètent ses lectures des Écritures, ses interrogations et ici son cheminement. Mais il dit ceci. « Once I knew there was a love divine. » Un jour, je savais qu'il y avait un amour divin. Éventuellement, je suis venu qu'à soit la négliger ou de l'oublier. Qui peut pardonner ce qui n'est pas pardonnable? Qui peut offrir le pardon lorsque le pardon ne peut s'offrir? Seulement l'agneau blanc comme la neige. C'est pas beau, ça? Et il pose cette interrogation un peu plus loin. Si seulement un cœur pouvait être blanc comme neige, Et c'est les dernières paroles, il le répète. Si seulement un cœur pouvait être blanc comme neige. Et j'aimerais vous dire ce matin que vous pouvez avoir ce cœur blanc comme neige. Il est accessible. Il est disponible dans la personne de Jésus-Christ. Cette aspiration, ce chant qui parle de cet agneau blanc comme neige, il est possible de le recevoir ce matin. Et je vous invite à le recevoir, à suivre l'exemple de Nicodème. Vous savez ce qui est arrivé à Nicodème? On parle au chapitre 12, verset 46, que des dirigeants se sont convertis. On peut imaginer qu'ils faisaient partie de la gang. C'était dans les 6 derniers mois. Et au chapitre 19, on apprend que 2 hommes sont venus chercher le corps de Jésus. Qui étaient ces 2 hommes? Joseph d'Arimathée et Nicodème, qui sort de l'ombre. Il était venu voir Jésus de nuit. Et là, il défend Jésus devant ses collègues. Mais là, il vient de jour, il prend son corps et il va donner le respect à Jésus avec Joseph d'Arimathée, sûrement un autre de ses collègues. Et il va aller l'enterrer. Tranquillement, cet homme se dévoile et sort du garde-robe face à sa foi. Petit à petit, la foi de Nicodème grandit. Éventuellement, il sort. Et dans l'action d'amour pour le Sauveur, il l'aima si patiemment, avec tant de piété, qu'il accepta volontiers, même après avoir demeuré à distance dans l'ombre, de venir chercher son corps et d'en prendre soin. Est-il le temps pour toi de sortir de l'ombre ce matin? N'est-il pas le temps de se séparer de la foule et de faire un pas en avant? Publiquement, pour Jésus. Il appelle les bras ouverts. Il t'invite. Si tu as soif, je peux te donner un eau qu'il va te satisfaire pour l'éternité. Veux-tu boire de cette eau? Et suivre l'exemple de Martine, qui a donné sa vie après avoir fait ses devoirs. Elle est venue, elle a vérifié, elle n'a pas entendu que ça a de l'air que, ça a de l'air que. Elle est venue, elle a écouté, elle a mis à l'épreuve les enseignements, elle a lu les Écritures, elle a fait ses devoirs. Et après avoir fait ses devoirs, elle a pris une décision après avoir vérifié les Écritures. Et sa vie a changé. Même après cette décision, il y avait des obstacles dans sa vie. Et il y a 3-4 mois, le Seigneur lui en a délivré. Et elle est sortie publiquement pour Jésus ce matin devant nos yeux. Et elle a rendu témoignage de celui qui l'a pardonné, de celui qui l'a aimé alors qu'elle ne l'aimait pas, celui qui a enlevé toute sa culpabilité et qui lui donne aujourd'hui de la joie et de l'épanouissement, peu importe les moments de la vie, aussi difficiles qu'ils peuvent être. Ce matin, je vous invite à suivre l'exemple de Martine, à suivre l'exemple de Nicodème et de sortir maintenant pour lui. J'aimerais vous inviter à fermer les yeux. On va terminer la prière. J'ai invité l'équipe à venir en avant pour terminer avec un beau chant qui s'appelle « Tel que je suis » et qui est en quelque sorte une prière de réponse à Christ. Et je vous invite à tous, par respect pour chacun, de fermer les yeux. Et j'aimerais vous inviter ce matin, si vous n'avez pas encore pris cette décision, à prier avec moi et de répéter ces paroles que j'aimerais vous proposer. Vous n'avez pas besoin de répéter ces paroles-là, ce n'est pas des paroles à réciter par cœur pour avoir le salut, loin de là. C'est simplement une idée de comment vous pouvez prier à Dieu pour exprimer votre regret pour vos péchés. Prions ensemble. Fermons les yeux, s'il vous plaît. Père Céleste, ce matin, nous voulons reconnaître, je veux reconnaître que tu es le Christ, le Messie, le Fils de Dieu, né d'une vierge, que tu es le Dieu incarné en homme, venu pour me sauver. Et ça fait peut-être un certain temps que je repousse cette décision. Et aujourd'hui, Seigneur, j'aimerais te confesser mes péchés, te demander pardon, car je suis un pécheur qui t'a offensé, qui a fait du mal, que ce soit par le mensonge, par des paroles contre les gens, par toutes sortes de moyens. J'aimerais te demander pardon ce matin. Et j'aimerais recommencer à nouveau. J'aimerais te croire dans tout ce que tu as dit, te donner ma vie, accepter qui tu es par la foi et te dire, je te remets ma vie, fais-en ce que tu veux. Sans toi, je suis perdu. Je n'ai pas d'espoir. Je n'ai aucune satisfaction. Je tourne en rond. Je veux t'abandonner ma vie ce matin, très simplement. Seigneur, puisses-tu bénir celles et ceux qui ont pris une décision pour toi ce matin? que tu puisses les accompagner dans les obstacles qui viennent aussi dans la vie chrétienne. Ce n'est pas une vie de plaisir et de facilité, mais c'est une vie que l'Écriture dit qui apporte la satisfaction, sachant qui nous sommes, où nous allons, pour qui nous sommes là. Ce que tant de gens désirent aujourd'hui qui n'ont pas. Merci Seigneur. Et puisses-tu bénir chaque personne dans cette église et parler à chaque cœur des croyants ce matin, afin que ces modèles de Nicodème, de Jésus, de Martine ce matin puissent nous inspirer à marcher et annoncer cette bonne nouvelle avec fierté à tous nos contemporains, à cette belle ville de Trois-Rivières. Au nom de Jésus. Amen.